Chapitre 8. Une nuit agitée. Robert de Fleurac et Daniel remontèrent doucement vers le château, dont les fenêtres du rez-de-chaussée étaient déjà éclairées. « Qui est ce jeune homme avec qui je vous ai surprise ?» demanda le comte sur un ton faussement taquin. « Je vous ai déjà dit que je ne le connaissais pas. Un peu avant vous, je l'ai rencontré. Il était assis sur un banc et faisait des croquis. Il m'a demandé qui jouait du cor dans la forêt. Je lui ai expliqué qu'il y avait chasse tous les mardis et samedis. Puis nous avons parlé d'autre chose. Il m'a raconté qu'il était peintre, qu'il était venu se reposer quelques jours à Chantilly. Puis, comme j'ai manifesté le désir de rentrer, il s'est très aimablement offert de m'accompagner. J'ai pensé que ce ne serait pas gentil de lui refuser. Voilà toute l'histoire. Je ne vous demandais pas tant de détails. Je suis pourtant contente de vous les avoir donnés. De cette façon, je l'espère, vous ne me reparlerez plus de ce jeune homme. De toute façon, je ne vous en aurai pas reparlé. Vous êtes une grande fille à présent. Je m'en suis aperçue et je ne vous considère plus comme il y a quelques années. » En passant à proximité des communs, Robert de Fleurac pria Daniel de l'attendre un instant. Il conduisit son cheval à l'écurie. « Je viens d'apercevoir la voiture de votre père, » fit-il quand il fut de retour. « Vous ne m'aviez pas dit qu'il vous avait accompagné ?»«
Mon père est ici !» s'exclama la jeune fille.
« Comment, vous l'ignoriez ?»«
Le chauffeur m'a conduite ici avant-hier et il est reparti le soir même. »
« Monsieur Marondier est venu sans doute pour passer le week-end avec vous. Vous semblez étonné, mais c'est tout naturel. »«
C'est vrai, rien n'est plus naturel. »
« Je me réjouis beaucoup de lui parler, » continua assez énigmatiquement le comte. Quelques instants après, ce dernier et Daniel pénétraient dans le château. Il n'avait rien de ce qu'on appelle une demeure ancestrale. Monsieur Marondier, qu'il avait acheté avant la crise, au moment où les affaires étaient prospères et où les huiles et les savons lui rapportaient bon an mal an plus de 2 millions, avait surtout songé à faire un excellent placement. Ce n'était que depuis 2 ou 3 ans que M. Marondier avait envisagé de s'y retirer. En prévision de ce jour, il l'avait meublé sommairement, se réservant plus tard, quand il quitterait Paris, de faire des frais. Puis il avait demandé à sa sœur, brave femme, dont l'unique faute avait été d'épouser un inventeur sans fortune, de venir habiter ce château avec son mari, de façon à l'entretenir. Alors que, de toute sa vie, il ne lui avait versé qu'une rente modeste, à partir de ce jour, il lui adjoignit 3 domestiques, non pas parce qu'il désirait que sa sœur vécût dans le confort, mais parce qu'il prévoyait que l'heure de sa retraite allait bientôt sonner et qu'il voulait que le château eût été rendu habitable. « Bonjour, monsieur, comme je suis content de vous voir, » dit M. Marondier dès qu'il aperçut le comte. « Je m'inquiétais justement de ma fille. J'allais lui demander des explications sur l'emploi de son temps. Mais à présent, je n'en ferai rien. » Comme quelques instants plus tard, Robert de Fleurac manifesta le désir de se retirer, M. Marondier insista pour qu'il restât dîner. Il était 10 heures du soir quand, après une soirée qui lui sembla interminable, Daniel demanda à son père la permission de monter se coucher. Elle l'embrassa, ainsi que sa tante et son oncle. « J'aurai quelques mots à vous dire en particulier, » fit peu après Robert de Fleurac. Monsieur Marondier se leva et, suivi du comte, entra dans une pièce voisine. Il croyait que ce dernier allait lui parler de Daniel, lui demander peut-être officiellement sa main, car s'il était question depuis longtemps d'un mariage, jamais encore on n'en avait parlé sérieusement. « Il y a dans cette pièce d'excellents cigares, » dit M. Marondier. Non, merci, je ne veux plus fumer aujourd'hui. M. Marondier avança un siège, pria le comte de s'asseoir. Quoi qu'il fît pour paraître indifférent au titre de Robert de Fleurac, le respect qu'il avait pour son hôte transpirait de chacun de ses gestes. La fortune lui avait tout donné, sauf un titre. On lui avait bien conseillé d'en acheter un, mais il n'avait pas voulu le faire. La noblesse ne s'acquiert pas avec de l'argent, mais régulièrement, grâce à des alliances. Aussi, pour que sa fille épousât le comte Robert de Fleurac, eut-il beaucoup donné. « Vous prendrez bien un petit armagnac ?» continua M. Marondier, qui, lorsqu'il voulait être aimable, offrait tout ce qu'il est possible d'offrir.
Le comte refusa encore. « Vous désirez peut-être une simple citronnade ?»«
Merci, merci, je n'ai envie de rien. »
On entendait la pluie crépiter contre les carreaux et sur la verrière d'un jardin d'hiver. Le château était silencieux. Parfois, à travers la porte, on percevait la voix de basse de M. Guillemin, le mari de la sœur de M. Marondier, voix dont cette dernière était très fière et dont elle disait qu'elle était musicale.
« J'ai voulu vous parler en particulier, » commença le comte, « parce qu'il s'agit d'une chose assez délicate. »
« Je vous écoute, » dit M. Marondier, qui se voyait déjà sollicité de donner sa fille par celui justement dont il désirait le plus faire à son gendre.
« Vous n'ignorez pas, M. Marondier, que j'ai une grande affection pour Mlle Danielle. Ce mot d'affection explique d'ailleurs mal le sentiment que j'éprouve. Mais nous sommes entre hommes, n'est-ce pas ? Il est inutile d'étaler ce que nous ressentons. Depuis longtemps, vous savez quelles sont mes intentions. Je ne vous les répéterai pas. Je connais aussi les vôtres. Je sais que ces dernières et les miennes concordent parfaitement. Vous m'avez souvent laissé entendre qu'il ne vous serait pas désagréable de m'avoir pour gendre. Si nous n'en avons pas parlé davantage, c'est que, par un accord tacite, nous attendions l'un et l'autre que Mlle Danielle fût en âge de se marier.
C'est tout à fait exact.
Vous savez qui je suis, monsieur Marondier. Vous avez eu l'occasion de rencontrer certains membres de ma famille. Vous êtes venu plusieurs fois dans ma propriété. Vous avez pu vous rendre compte qu'un homme comme moi ne pouvait épouser qu'une jeune fille d'une honorabilité parfaite.
Monsieur Marondier, qui ne voyait où le comte voulait en venir, le regarda avec étonnement.
Je suis tout à fait de votre avis, dit-il à tout hasard.
Or, continua Robert de Fleurac, il est arrivé tout à l'heure un petit événement dont je tiens à vous mettre au courant. En revenant de la chasse, j'ai eu la surprise de rencontrer votre fille dans une allée de la forêt avec un jeune homme.
Oh, je sais, il ne s'agissait de rien de grave. Néanmoins, vous reconnaîtrez que cela ait pu m'être désagréable.
Ce que vous dites est impossible, s'écria M. Marondier, qui avait rougi comme un enfant.
Oh, ne croyez pas que je veuille insinuer quoi que ce fût de désagréable. J'ai simplement voulu vous rapporter un fait que le hasard seul m'a fait connaître et qui est certainement sans importance. Mlle Danielle a été la première à se justifier. Ce jeune homme, d'après ce que j'ai compris, est un artiste. Elle aura été amusée par ce fait. Elle lui aura parlé, c'est tout. Ce n'est pas grand-chose.
Elle vous a dit que ce jeune homme était un artiste ?
Enfin, c'est ce que j'ai supposé. Ce jeune homme faisait des croquis, ce qui est d'un artiste, justement.
Elle ne vous l'a pas présenté ?
Non.
Ce qu'il y eut alors de surprenant, ce fut qu'au lieu de se fâcher, M. Marondier se mit à plaisanter.
Qu'elle est imprudente, cette enfant ! Elle est d'une naïveté qui m'effraie parfois. Enfin, tout est bien qui finit bien, car je ne suppose pas que vous puissiez attacher quelque importance à cet incident. Pour plus de sûreté cependant, je prendrai des renseignements à la gendarmerie. Le pays est infesté de maraudeurs. Il s'agit peut-être d'un individu en quête d'un mauvais coup. Il reconnaissait sans doute les abords du château et ma fille l'a surpris.
Ce jeune homme avait pourtant l'air bien élevé.
Voulez-vous que j'en parle à ma fille ? C'est assez délicat, mais si vous y tenez vraiment, je peux le faire.
Je ne crois pas que ce soit la peine, d'autant plus que vous allez rester quelques jours ici, n'est-ce pas ? Et qu'il vous sera facile de vous faire une idée à ce sujet.
Je repars lundi matin.
C'est plus ennuyeux.
Enfin, monsieur de Fleurac, vous n'allez pas prendre au sérieux cette histoire.
Peu après, les deux hommes se séparaient, parfaitement d'accord sur l'inutilité de s'occuper davantage de la conduite de Daniel. Mais dès qu'il fut seul, M. Marondier changea complètement. Tout le monde était couché. Les mains derrière le dos, la tête basse, il se mit à arpenter le hall du château. S'il n'avait rien laissé paraître de ses soupçons, il n'en était pas moins convaincu que le jeune homme rencontré avec sa fille n'était autre que Florent Maugas. La colère l'envahissait. Comment ? Il envoyait sa fille à Chantilly pour qu'elle ne vît plus le peintre et elle trouvait le moyen de le faire venir près d'elle ? Elle était donc la duplicité même. Mais cela ne se passerait pas comme cela. Brusquement, il n'y tint plus et se rendit dans la chambre de Daniel. Lève-toi, dit-il avec brusquerie. Bien que couchée, la jeune fille ne dormait pas. Prise de peur, elle feignit cependant d'avoir été réveillée dans son premier sommeil.
Qu'y a-t-il, papa ?
Lève-toi immédiatement. Elle obéit, passa un peignoir. Dehors, il continuait de pleuvoir à torrents.
Tu n'as pas honte ? Cria M. Marondier.
Qu'ai-je donc fait, papa ?
M. Marondier prit sa fille par le bras, le serra au point de lui faire mal.
Tu sais mieux que moi ce que tu as fait. Florent Maugaz est ici. C'est toi qui lui as dit de venir te rejoindre. Est-ce que tu n'as pas perdu la tête ? Et Monsieur de Florac te rencontre avec cet individu. Mais tu auras beau faire, entends-tu, tu m'obéiras ou bien tu quitteras la maison. Tu as le choix. Demain soir, je te reconduis à Paris et aussi vrai que je suis ton père, tu ne sortiras plus qu'accompagné. Après, nous verrons.
Monsieur Marondier, à mesure qu'il parlait, était de moins en moins maître de lui. Une sueur fine perlait sur son front. Il n'était plus très jeune et l'émotion le faisait trembler au point qu'à certains moments, comme surpris par ce phénomène, il se taisait subitement. Daniel le regardait alors bouleversé. Elle adorait son père et le sentiment qu'il pouvait avoir une attaque à cause d'elle l'épouvantait plus encore que les conséquences de sa conduite.
« Papa, calme-toi, je t'en supplie !»
Monsieur Marondier, épuisé, se laissa tomber dans un fauteuil, un mouchoir déployé à la main.
« Donne-moi un verre d'eau !»
Daniel courut à la carafe qui se trouvait à la tête de son lit.
« Tiens, papa, bois lentement !»
Quelques instants après, Monsieur Marondier se leva. Cette minute qu'il avait passée assis avait fait de lui un autre homme. On eût dit qu'il sortait d'un bain. Les cheveux et les sourcils encore humides, les pommettes roses, il semblait reposé.
« Nous reparlerons de tout cela demain, » dit-il en ouvrant la porte.
Lorsque Daniel fut seul, elle ne put retenir ses larmes. Qu'avait-elle donc fait pour mériter d'être traitée ainsi ? Pouvait-on lui faire grief d'aimer ? Était-ce sa faute si Florent Maugas s'était trouvé un après-midi sur sa route ? Ce jour, si, au lieu d'aller au musée du Luxembourg, elle avait accompagné sa mère chez les Kenville, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle se serait même peut-être réjouie d'épouser le comte de Fleurac. N'avait-elle pas été sensible à la cour qu'il lui avait faite chaque fois qu'elle s'était rendue au château de Celles ? Ne s'étaient-ils pas promenés, eux aussi, dans la forêt ? Comme toutes ses camarades, elle serait devenue une dame à 20 ans. Son temps eût été partagé entre son foyer et ses parents. Les petits heurts qui se produisent alors inévitablement eussent été ses seuls soucis. Mais la destinée n'avait pas voulu qu'il en fût ainsi. Florent Maugaz était apparu. Avant même qu'elle eût appris qu'il était peintre, elle l'avait aimé. Un quart d'heure s'écoula ainsi, durant lequel elle roula les pensées les plus sombres. Puis elle se ressaisit. La crainte qu'elle avait de faire de la peine à son père n'était pas assez forte pour lutter contre l'amour. Florent était devant elle. Il lui semblait qu'il lui parlait, qu'il la consolait. À un moment même, elle frissonna comme s'il l'avait saisie dans ses bras. Il lui apparut alors que demain, après ce qui venait de se passer, il lui serait impossible d'aller au rendez-vous qu'elle lui avait elle-même fixé. Elle le vit en imagination, dans sa petite chambre d'auberge, ne vivant que pour ce rendez-vous. Que sa déception serait grande lorsqu'il ne la verrait pas arriver, ni demain, ni après-demain, ni plus jamais. De nouveau, Daniel se mit à pleurer. Il fallait qu'elle fît quelque chose. Comment prévenir Florent de ce qui s'était passé ? Elle ouvrit la fenêtre. Il pleuvait toujours et la nuit était opaque. C'eût été une folie d'aller le retrouver à présent. Mais, à mesure que le temps s'écoulait, cette idée semblait de moins en moins impossible à la jeune fille. Finalement, elle n'y tint plus. À la hâte, elle se vêtit. De nouveau, elle ouvrit la fenêtre. Inlassablement, la pluie continuait de tomber. Une heure durant, elle resta accoudée, avec l'espoir que celle-ci s'arrêterait. Soudain, dans le château silencieux, un coup retentit à une horloge. Était-il minuit et demi, une heure et demie, elle ne le savait. Doucement, elle se glissa sur le palier, descendit sur la pointe du pied le grand escalier. Arrivée dans le vestibule, elle prit un manteau de pluie. Le désir qu'elle avait de revoir Florent était si grand que les difficultés de son entreprise ne lui apparaissaient même pas. La porte était fermée à clé. Elle entra au salon, ouvrit la fenêtre, les volets, puis, une fois dehors, repoussa ceci. Un tremblement l'agita alors des pieds à la tête. Seule dans la nuit, sous la pluie, elle eut brusquement conscience qu'elle n'atteindrait jamais l'auberge du carrefour de Cuise. Et même si elle l'atteignait, peut-être ne l'entendrait-on pas, ne lui ouvrirait-on pas. Elle fit quelques pas, regarda la façade du château. Elle était obscure. Cette constatation lui redonna un peu de courage. Déjà, ses jambes et ses cheveux étaient mouillés. Dans un mouvement instinctif, elle se rapprocha du château. À la seule pensée que son père pût être mis au courant de sa fugue, elle faillit s'évanouir. Un instant encore, elle demeura hésitante. Puis, sans réfléchir, elle se mit à courir. 10 minutes plus tard, elle arrivait au carrefour de Cuise. Le trajet lui avait semblé interminable. La respiration coupée par le vent, le visage ruisselant, elle se demanda devant l'auberge par quel prodige elle avait pu se guider. Mais, au moment de frapper, elle fut saisie d'une nouvelle frayeur. Tout le village n'allait-il pas apprendre, le lendemain, de la bouche de l'aubergiste, que la fille du châtelain était venue rejoindre son amant en pleine nuit, qu'il fallait qu'elle fût bien prise pour être sortie par un temps pareil? Mais elle n'était pas venue jusque-là pour s'en retourner. Elle frappa du poing contre un volet. Personne ne répondit. Un instant, elle perdit son sang-froid. Il lui sembla, comme dans un rêve, qu'on la poursuivait, qu'on allait l'atteindre. Et la porte demeurait close. Elle refrappa, à coups redoublés cette fois. De la lumière parut enfin à une fenêtre. « Ouvrez, ouvrez » dit-elle à voix basse, comme si elle craignait à présent de réveiller les habitants de l'auberge. Elle entendit un bruit de savates, des grommellements. « Qui est là ? » demanda-t-on. « Ouvrez, je vous expliquerai après. » Des cendres achevaient de se consumer dans l'âtre. Deux verres, une bouteille vide, se trouvaient encore sur une table. Il faisait à la fois doux et humide dans la salle du café. « Ah, mais c'est Mademoiselle Marondier !» fit l'aubergiste qui tenait d'une main son pantalon et dont la chemise était ouverte sur une poitrine d'ours. « Excusez ma tenue. »« Oh, cela ne fait rien !» répondit la jeune fille, un peu gênée tout de même. « Que se passe-t-il? Il n'y a personne de malade, j'espère, au château ?»« Je voudrais parler à M. Florent Maugas, » fit Daniel, sans répondre aux questions de l'aubergiste. « Allez le chercher. Faites vite, je vous en supplie. »« Vous ne voulez pas que je rallume le feu, d'abord ?»« Non, je vous en supplie, dépêchez-vous. » Quelques instants après, le peintre pénétrait dans la salle de café. Il avait juste endossé son pardessus. Au bas de celui-ci, on apercevait son pantalon de pyjama. « Vous, Daniel, ici ? » s'écria-t-il à la vue de la jeune fille. Mais l'aubergiste n'avait aucune envie de laisser les jeunes gens seuls. Il voulut à toute force faire du feu, préparer une boisson chaude. Devant tant de complaisance, il était difficile de lui demander de se retirer. « Qu'est-il donc arrivé ? » demanda Florent à voix basse. « Je vous raconterai cela tout à l'heure. Habillez-vous, vous allez me raccompagner. » Il était 3 heures du matin quand le peintre et Daniel quittèrent l'auberge. La pluie avait enfin cessé. Il n'y avait plus un nuage dans le ciel et les étoiles, comme heureuses de revoir la terre qui, si longtemps leur avait été cachée, resplendissaient. « Daniel, dites-moi tout maintenant. » Ils marchaient tout près l'un de l'autre. Florent avait pris le bras de la jeune fille. Le sol était couvert de flaques brillantes. C'étaient de véritables zigzags que les jeunes gens devaient faire pour les éviter en restant unis. « Voilà, Florent, mon père est arrivé dans l'après-midi. Il sait que vous êtes ici. »« C'est le comte de Fleurac qui le lui a dit. »« Je ne sais pas, mais je ne peux pas vous voir demain ni après-demain. Mon Dieu, je ne sais comment nous allons faire. » « Demain soir, mon père me ramène à Paris. Je ne pourrai plus sortir seule. Je serai surveillée comme si j'avais commis un crime. Florent, dites-moi ce qu'il faut faire. Vous savez que je vous aime.
Je ne voulais pas vous le dire, mais il faut que vous le sachiez. Je vous aime. »
Moi aussi, dit le peintre.
À ce moment, il eut conscience que sa réponse n'était rien à côté de ce qu'il ressentait. Lâchant le bras de Daniel, il la saisit par la taille, la serra contre lui, et, comme si à 3 heures du matin il craignait d'être vu, il attira la jeune fille dans l'ombre d'un mur.
« Florent, je vous en supplie, il faut que je rentre, venez !»
Ils continuèrent leur route, enlacés cette fois. Soudain, le chant d'un coq retentit au loin.
« J'aime mieux cela que le son du cor, » dit Florent.
Daniel comprit que le peintre faisait allusion au comte de Fleurac.
« Vous êtes jaloux ? »
demanda-t-elle, comme elle l'eût fait s'ils s'étaient trouvés tous les deux à un bal de jeunes filles.